Dans l'alcôve ténébreuse, la main se déplaça légèrement vers le bord du lit. Elle apparut plus nettement, très pâle, effilée par des ongles soigneusement manucurés. Légèrement soulevée au-dessus de la courte pointe, elle ébaucha un signe de gratitude qui, d'une torsion imperceptible du poignet et d'un étirement des doigts, se transforma en geste de congédiement. « Fort bien, madame !» condescendit Dame de Maubrenas en s'inclinant. « Je vous souhaite la bonne nuit !» Du fond du nid d'obscurité, un murmure un peu rauque lui répondit pour lui rendre la politesse. Le chevalier de l'hôtel se retira. Se tournant vers le sire de Vaumacel, la suivante l'engagea à s'approcher. Edan fit un pas de plus et, mettant un genou à terre, inclina la nuque.
« Votre Altesse,
dit-il,
se m'est un immense privilège et une joie plus grande encore d'être à nouveau admis en votre présence. »
La longue main blanche se redressa avec autorité, paume ouverte, dans une injonction assez claire de silence. Comme le chevalier se taisait, le grand lit craqua légèrement et l'alcôve bruit d'un froissement d'étoffe. Au chevet, le prêtre suspendit son chapelet et releva doucement la bordure de son capus vers le visiteur. Dans les ombres du baldaquin, deux prunelles miroitèrent presque aussi vitreuses que le regard félin entrevu plus tôt dans la soirée. Almodie se précipita, prête à aider la duchesse à se redresser contre ses oreillers, mais de rechef, un geste autoritaire la coupa dans son élan. Sous le baldaquin ombreux, un gosier enroué susurra quelques mots avant de s'étouffer dans une quinte de toux. Suivit une grande inspiration qui siffla comme le râle d'un phtisique. Enfin, la dame parvint à prononcer des paroles audibles.
« Pardonnez-moi, chevalier, j'ai le souffle court. »
Cette voix sonnait un peu caverneuse, peut-être plus grave que de coutume, mais elle possédait sans conteste le timbre et la diction d'Odéarde de Bromel.
« Que voulez-vous ? C'est sans doute l'émotion, »
persifla-t-elle.
« Votre Altesse, je suis révolté par la violence qu'on vous a faite, » dit sourdement Edan. « Je remets mon épée à vos pieds. Désignez vos ennemis, et je vous vengerai. » « Ah !»
railla-t-on dans les ténèbres brochées de soie.
« Le champion de Godmas serait-il enfin de retour ? On ne vous attendait plus. »
« Venant de vous, madame, je recevrai tout avec gratitude, jusqu'aux reproches. »
« Eh bien, l'un de nous deux, au moins, aura d'amples motifs de reconnaissance. »
Un nouveau frisli d'étoffe froissée anima l'alcôve, comme si l'occupante avait roulé sur le flanc pour mieux considérer son visiteur.
« Et dites-moi, chevalier, »
reprit le timbre sibilant,
« que ferez-vous si mes instructions contrarie celle de mon bon cousin Anguzel. »
La question est facile à trancher. Je suis le messager du comte, non son vassal. En revanche, je suis votre serviteur.
Vous savez donc toujours parler aux dames, après tout ce temps. Décidément, quel homme d'exception vous faites. Un serviteur prodigue. »
Dans la figure indistincte, les prunelles avaient les reflets froids de deux pièces d'argent.
« Si vous saviez combien je vous ai abhorré, chevalier, »
poursuivit-elle sur un ton léger.
Vous m'avez abandonné dans la pire des nécessités. Oh oui. Je vous ai haï de bon cœur. Je vous ai détesté de toute mon âme. Le plus drôle de cette triste affaire, c'est que vous m'étiez à peu près sorti de l'esprit quand on m'a accusé d'avoir cédé à une inclination coupable pour votre personne. L'existence a de ses ironies. Mais dès lors que ma situation a pris mauvaise tournure, vous n'avez plus quitté mes pensées. Vous pouvez vous en féliciter. Jusqu'au matin du combat judiciaire, je vous ai attendu comme un sauveur. Je crois que votre défection a été plus cuisante pour moi que la défaite de ce pauvre Thèves. Passons sur les infamies qui en furent les conséquences. J'avais 1000 ennemis à la cour, mais tous avaient pris votre figure. La haine est un sentiment brûlant comme la passion, et peut-être plus sûr et plus durable. Bien recuite, elle aide à affronter les pires tourmentes. Votre désertion aura donc fait de vous le soutien de tous mes instants et de toutes mes humiliations. Que de projets j'ai nourris pour vous. Que voulez-vous, cloîtrée comme une simple nonne, j'en avais tout le loisir.
La duchesse s'interrompit pour reprendre une respiration sifflante, puis poussa un profond soupir. Une haleine balsamique enveloppa fugitivement le sire de Vaumacel.
Mais les meilleures choses ont une fin,
reprit la grande dame avec une nuance de déception.
J'ai vu la mort en face, et cela m'a incité à l'examen de conscience. Aussi, mon ressentiment pour vous s'est-il refroidi. Non que je vous ai pardonné, chevalier. Il vous faudra encore vous montrer digne de ma clémence. J'ai toutefois fini par concevoir que votre faute ne dépassait pas votre condition, qui ne mérite pas de m'aveugler au point de me détourner de mes ennemis véritables.
À côté du lit, le dessicatorien avait insensiblement redressé la tête et scrutait le profil du chevalier avec une insistance désobligeante. Dans l'ombre du capus, son visage était devenu en partie visible, une figure étrange, délicate et juvénile, dont les lèvres livides se crispaient sur un sourire.
« Vous êtes magnanime, madame, d'avoir ainsi tempéré votre ressentiment. »
dit Edan tout en glissant un coup d'œil au prêtre importun.
Vous avez toutes les raisons de m'en vouloir, hormis les calomnies que l'on a fait courir sur notre compte. Aurez-vous la bonté d'écouter les raisons pour lesquelles je n'ai pu répondre à la convocation du duc?
Oh, je les connais déjà. Sire Dom me les a rapportées.
Et soudain, la main pâle de la duchesse s'éleva, l'index pointé, comme pour exprimer une mise en garde.
« Entendez-vous ? »
s'écria-t-elle avec une inflexion d'étonnement.
« Vous avez toute mon attention, »
répondit Edan.
« Mais non, pas moi, »
s'agaça-t-elle.
« Entendez-vous ? »
En redressant la tête, le sire de Vaumacel prêta l'oreille. Hormis les pétillements discrets du feu, l'appartement était d'une pesante quiétude. Les murs et les volets étouffaient en grande partie le remue-ménage monté des étables et du chenil.
Les cris des bêtes vous incommodent-ils ?
Demanda le sire de Vaumacel.
Naturellement. Ces animaux me cassent la tête. Mais vous les entendez aussi bien que moi. Non, je vous parle d'autre chose.
De quoi donc, madame ?
De la musique. L'entendez-vous ?
Après être resté silencieux quelques instants, Edan secoua le chef.
« Je n'entends rien de tel, »
dit-il d'un air déconcerté.
« Plus personne ne chante à cette heure de la nuit, »
intervint Almodi, sur le ton rassurant que l'on emploie parfois avec les gens qui n'ont plus toute leur tête.
« Tiens donc, j'ai dû rêver, »
admit la duchesse avec un accent teinté de scepticisme.
« Où en étions-nous déjà ?»« Ah oui, vos excellentes raisons de m'abandonner à mes sycophantes. » »«
Si je m'étais parjuré auprès de l'ordre du sacre pour comparaître à votre procès, »
fit valoir Edan,
« quel aurait été le poids de ma parole ?»«
L'argument n'est-il pas un peu... « Usé !»
soupira Odéhard.
« Quoi ? Encore cette vieille scie ? Le poids des engagements concurrents dans un conflit de loyauté ? Que de félonie n'a-t-on pas justifié avec pareil couplet ? La vérité est toute simple, chevalier. En faisant passer votre honneur avant le mien, vous m'avez bafoué.
Je suis revenu pour réparer cet outrage.
Et c'est là toute votre plaidoirie. Je m'attendais à des protestations plus développées et à des excuses plus persuasives. Vous avez le repentir ennuyeux. Tenez, là, même votre génuflexion m'importune. J'en attrape des courbatures à vous voir rester si longtemps à genoux. Si encore vous me faisiez une déclaration galante. Mais nous causons d'affaires sérieuses. Comment avoir de la repartie dans une posture aussi inconfortable ?
Quittant le sire de Vaumacel, les prunelles aux reflets aqueux se portèrent sur le dessicatorien.
Mon frère, pourriez-vous avoir la courtoisie de céder votre siège au chevalier ? Je suis fatigué de sa prosternation.
Voici une initiative que je suis au regret de désapprouver,
répondit posément le prêtre. Il avait la voix suave d'un tout jeune homme, mais un ton empli de fermeté. Sous le grand dais du baldaquin, l'obscurité parut soudain s'épaissir.
Que me dites-vous là ? « Frère Solacieux ?»
chuinta la duchesse.
« Vos prières et vos soins font de vous mon guérisseur, nullement mon chaperon. »
« Aussi les seuls droits que je m'arroge ont-ils votre salut pour dessein ?» répondit le dessicatorien d'un air doucereux. « Vous ne serez pas en sûreté si je vous laisse en tête à tête avec ce visiteur. »«
Eh, je ne le sais que trop bien. » Il y a beau temps que Sir Edan m'a perdu de réputation. Le mal est déjà fait.
Je crains de ne pas avoir été très clair, s'excusa le dessicatorien. Il va de soi qu'il ne m'appartient pas de vous dicter votre conduite, mais je me dois de vous mettre en garde contre les périls pernicieux. Cet homme que vous recevez est dangereux. Sa vitalité est trompeuse. Il est investi d'un charme néfaste. » Le chevalier tourna la tête vers le prêtre à ces mots. Le frêle religieux lui rendit son regard sans se départir de son sourire figé.
« Quelle réputation détestable, Sir Edan !»
persifla la duchesse.
« Vous voici persona non grata jusque chez le clergé du desséché. »
Nous accordons les secours de la religion sans distinction à toutes les âmes, bonnes et mauvaises, élevées et viles, dit uniment le dessicatorien. Je ne cherche pas à vous prémunir contre une dérive morale, Altesse, mais contre une corruption païenne.
Et je vous en sais gré, frère Solacien,
répliqua la voix lasse de la patiente.
Comme je vous rends grâce pour vos secours diligents, votre piété et les soins dont vous m'accablez. Mais vous pouvez m'en croire, si le chevalier de vos macelles est dangereux pour la réputation des dames et pour la vie de ses ennemis, son infamie l'a privé de tous ses prestiges d'enchanteur, je ne risque vraiment pas de céder à ses charmes. Je vous prie donc, mon charitable ami, de nous laisser un peu deviser seul à seul. En votre présence, le chevalier se sentira contraint de n'énoncer que de prudentes banalités, alors que je voudrais qu'il me parle sans fard.
Altesse, cette créature ne devrait pas approcher la femme nouvelle que vous êtes devenue.
Oh, pour cela, rassurez-vous, mon frère. Je suis sorti si meurtri de mon agression que je ne me sens plus du tout femme. Vos préventions sont sans objet. Allez donc faire vos dévotions. Cela fait trop longtemps que je vous empêche d'accomplir vos devoirs.
Pendant que la duchesse parlait, Almody s'était insensiblement approchée jusqu'à se tenir poliment auprès du prêtre. La suivante manifestait une déférence de bon ton, mais secondait en silence la volonté de sa maîtresse. Elle n'en paraissait pas moins mal à l'aise, les deux mains plus crispées que posées sur sa robe. Le prêtre se leva à regret. Sa tenue sombre flottait sur ses épaules chétives comme une houppelande suspendue à sa patère.
« Le Dieu a été clément avec vous, Altesse, »
susurra-t-il. Mais veillez à ne pas brûler les étapes. Vous n'êtes pas encore dans la plénitude de vos moyens.
Ce poumon percé ne me le rappelle que trop.
Avant de vous laisser, acceptez que je renouvelle le Libéra. Il vous confortera plus longtemps.
Bénissez-moi, mon frère, parce que j'ai chuté.
Le frêle dessicatorien se pencha alors sur la souffrante, sa robe noire se fondant dans l'obscurité de l'alcôve. Quelques versets bourdonnèrent dans les ténèbres, énoncés dans une langue morte, dont la prosodie donnait un timbre étonnamment grave à l'officiant. La duchesse émit un hoquet et marmonna un répon à peine audible. Le prêtre se redressa alors et fit un pas en arrière.
« Vous êtes dans la main du Dieu, Altesse, »
murmura-t-il.
« Il est miséricordieux, mais gardez-vous de mettre sa patience à l'épreuve. »
Puis, sans un mot à l'attention du sire de Vaumacelle, le dessicatorien gagna la porte des appartements. Il se déplaçait la tête modestement inclinée, d'un pas glissé, avec la lenteur funèbre d'un porteur de cercueil. Almody l'accompagna jusqu'au seuil de la chambre. Il se glissa dehors, telle une fumée absorbée par la nuit. Sur le bord du lit, la main effilée de la duchesse désigna la chaise à haut dossier.
« Allons, asseyez-vous, chevalier, »
intima la voix sourde dans les ombres.
« Nous allons enfin causer à notre aise. »
Sa suivante étant discrètement revenue à son ouvrage, la dame l'interpella.
« Dites-moi, mon ami, cette fois, vous l'avez bien entendu. »«
Quoi donc, votre Altesse ?»«
Eh bien, la musique. Quand vous avez ouvert la porte au frère Solacien, moi, je l'ai entendu d'ici. »«
Vraiment, votre Altesse ? Je n'ai pas fait attention. Peut-être avais-je la tête ailleurs. »
« Ce que vous êtes distraite, ma chère. Enfin, cela est sans importance.
On s'agita au fond de l'alcôve, dans un froissi d'étoffe, tandis que la figure indistincte se redressait, comme si elle s'était complètement adossée aux oreillers de la tête de lit.
« Reprenons votre procès, chevalier. Pour l'heure, vous n'avez guère su émouvoir la cour, même si elle doit vous reconnaître un mérite. Grâce à vous, j'ai pu me débarrasser un moment du bon frère Solacien. De gratitude, j'en oublierai presque qu'à cause de vous. J'ai passé une année recluse à Mondoir, au milieu des mystes de la vieille déesse. Quelle infortune quand on y songe. À peine avais-je échappé au cloître, il a fallu que je tombe sous la coupe de ces oiseaux de mauvais augure.
« Altesse, souffla Almody d'un air effaré, si on vous entendait.
Rassurez-vous, mon ami, vous m'avez assez fait la démonstration de votre loyauté. Je sais que l'indiscrétion ne sera jamais de votre fait. Et viendrait-elle du chevalier ? Cela ne prêterait point à conséquence. Cyrédane a perdu tout crédit. Nul n'accordera foi à son propos si nous le démentons.
Je crois, madame, que nous sommes passés par-dessus la sentence pour aller tout droit aux charbons ardents,
protesta le sire de Vaumacel.
Détrompez-vous, chevalier. Je n'ai pas encore délibéré. Pour l'heure, j'instruis toujours votre cas. Nous n'en sommes pas au supplice, juste à l'application de la question.
Et quel aveu cherchez-vous à m'arracher ?
Oh, les aveux, je n'en ai que faire. La faute est constituée. À quoi bon vous extorquer ce que je sais déjà ? Non, ce qui m'intéresse, ce sont les réparations. Qu'êtes-vous prêt à accomplir pour vous racheter ?
Tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner.
Le mot est aussi poli qu'il est court. Quoi ? Si je vous commande de vous jeter par la fenêtre, le ferez-vous ? Je brûle de vous mettre à l'épreuve. Mais non. Ce serait encore trop doux après tout ce que j'ai souffert à cause de votre abandon. La pénitence doit être plus cruelle, à moins que la compensation que vous m'offrirez n'efface vraiment tous vos torts. Eh bien, parlez. Vous êtes venu jusqu'à moi. C'est que vous avez quelque chose à me proposer. Que me sacrifiez-vous ?
Madame, je suis revenu en Bromel dans le dessein de laver votre honneur et le mien. Sachant que je n'avais plus d'appui, j'ai cherché l'alliance de chevaliers étrangers, les aventureux du bois Oiselet. Hélas, dans les circonstances troublées que nous traversons, je viens de perdre le dernier d'entre eux. Qu'à cela ne tienne, mon devoir m'oblige. Je vais donc me rendre seul devant le duc pour restaurer la vérité. Je suis prêt à braver tous les périls pour ce faire, qu'il s'agisse du Nordalie, de la prison ou de l'échafaud.
Un soupir caverneux salua ces paroles.
Quel défaut d'imagination,
gémit la duchesse.
Dites-moi, chevalier, quand la hache du bourreau aura décollé cette tête dépourvue de jugeote, en quoi serais-je avancé ?
Je ne me laisserai pas condamner sans dénoncer les faux témoignages qui ont été portés contre vous. Je défierai dans la lice quiconque osera prétendre le contraire. Si elles veulent sauver leur réputation, les dames qui vous ont diffamé devront bien m'adresser leur champion. J'ai déjà vaincu celui que m'a envoyé la baronne de Brégor. Quant à la dame de Loulnay, son mari est un piètre combattant qui a été le premier à mordre la poussière à l'Endinas. Vous pouvez avoir l'assurance que mon bras et le bon droit restaureront votre honneur en confondant les médisantes.
Et ne croyez-vous pas que c'est justement la force de votre bras qui vous a valu ce coup de poignard en traître?
Comme vous pouvez le constater, la blessure n'a rien altéré de ma détermination.
Ah, je voudrais bien vous croire, chevalier. Je suis presque prête à vous accorder le bénéfice du doute. Vous êtes probablement sincère, mais croyez-vous vraiment que Ganelon vous laissera remettre en question son autorité et son remariage? On a déjà tenté de vous faire taire. On recommencera.
Jusque sur l'échafaud, je clamerai votre innocence et la mienne. Mon sang pourra alors laver l'opprobre dont on nous a couverts.
Seigneur, chevalier, envisagez-vous le martyr? Vous vous mettez à parler comme un prêtre. Ah non, il suffit. J'ai assez soupé de la cagoterie.
La main de la duchesse quitta le bord du lit et vint se poser sur celle d'Edan, assis à son chevet. Elle lui imprima une légère pression qui exprimait un mélange de réprobation et de gratitude. Sur ses doigts élégants et amaigris, les bagues désormais trop larges avaient un peu de jeu.
« Mais après tout, concéda-t-elle, je ne vous interdirai point de défier le duc si vous y voyez le moyen de réparer votre défection. Je souhaiterais juste que vous le fissiez avec un peu plus de sens. Avez-vous déjà oublié le message que le comte de Kimark vous a chargé de m'apporter ?»«
En aucun cas, madame. » »«
Eh bien, qu'attendez-vous pour me le délivrer ?»«
Je croyais que monseigneur Méléagan l'avait déjà fait. » »«
Et vous croyez à raison. Du moins, mon cher fils m'a-t-il instruit de ce que ce bon chevalier de Thèves lui avait dit. Or, justement, la proposition de mon cousin Anguzel vous offre un argument qui donnerait plus d'utilité à votre reddition.
Vraiment? Pour vous parler en toute franchise, Sir Gawir et moi, nous avons craint que vous ne receviez fort mal les propositions du comte.
Je vous mentirais si je prétendais qu'elles m'ont transporté. Cependant, elles ne m'ont pas surprise non plus. Je sais à qui j'ai affaire. Anguzel est un allié de circonstance. Il fera toujours passer ses intérêts avant ma cause. Et je me suis bien gardé de lui accorder ma confiance. Il faut aussi reconnaître qu'il possède quelques qualités. C'est un vieux renard qui sait tempérer ses ambitions et son audace quand il est en difficulté. Il y a une leçon à tirer de son exemple.
Retirant sa main, la duchesse poussa de rechef un soupir poitrinaire qui exprimait toutefois plus d'agacement que de consomption.
Ah, quelle déchéance! Me trouver réduite à manœuvrer du fond d'un lit. Avec ce dessicatorien qui intrigue pour devenir mon directeur de conscience, je me fais l'effet d'une vieille femme en train de régler ses dernières volontés. J'aurais bien besoin de marcher pour mettre au clair mes idées, et surtout les vôtres, chevalier. Tenez, puisque vous êtes là, rendez-vous utile. Aidez-moi à me lever. »
Ces mots firent sursauter Almody. « Votre Altesse, dit-elle avec alarme, il est encore trop tôt pour de tels efforts.
« Épargnez-moi votre sollicitude, ma chère. En fait, il est presque trop tard. Je vais finir par dépérir si je reste couché.
Mais le frère Solacien vous a recommandé le repos.
Que voulez-vous qu'un dessicatorien recommande, sinon le repos?
Le seigneur et la dame de verre seront très contrariés d'apprendre pareille imprudence.
Eh bien, vous veillerez à ce qu'ils n'en apprennent rien. Abrégez donc ces jérémiades et aidez-moi, mon ami. »
Le visage défait,
La suivante vint seconder le sire de Vaumacel. L'atmosphère des appartements, déjà chargée de fumigations et de poudres de senteurs, devenait presque irrespirable dans la pénombre de l'alcôve. Y stagnait un bouquet de parfums capiteux si fort qu'ils en devenaient suffocants. Il apparut vaguement dans l'obscurité que la duchesse n'était point allongée sous les couvertures, mais juste étendue sur les courtes pointes. Elle passa un bras un peu grêle sur l'épaule du chevalier et l'autre sur celle de sa suivante pour qu'ils la fissent pivoter et asseoir au bord du lit. Odéarde de Maginois sortit alors des ténèbres et se précisa un peu mieux dans la faible lumière. La grande dame était magnifiquement parée, comme si elle continuait à régenter une cour souveraine. Son corps se trouvait à la fois magnifié et effacé par des atours fastueux, où les galons des brocarts et les brillants des ors froids scintillaient froidement à la lueur du feu. La longue traîne de sa robe, qui superposait savamment les drapés de la surcotte, de la cotte et du corset, se déployait sur le lit jusqu'à se fondre dans les ombres. Un haut col fourré de menu vert soutenait sa tête distinguée, que la faiblesse affectait d'infimes dodelinements. Sa figure altière, amaigrie par l'épreuve, paraissait maladivement rajeunie. Son visage avait été comme épuré. Malgré ses joues creusées et ses yeux un peu caves, ce grand front blanc, ses pommettes bien dessinées ainsi que son menton délicatement volontaire, lui prêtaient une beauté sculpturale. Le jais veiné d'argent de sa coiffure, retenu par une résille de fil d'or, la couronnait d'un diadème de nuit et de miroitement.
« Je vais me lever dans un instant, » dit-elle. « J'attends ce moment depuis si longtemps que j'en ai des étourdissements. »
« C'est déjà un beau progrès, Votre Altesse, » gémit Almody. « Nous devrions nous en contenter pour l'instant. »
« Si je m'étais contenté de peu, jamais je ne serais devenue duchesse. »
Pour rassembler ses forces, assez bizarrement, Odéarde parut retenir son souffle plutôt que le reprendre. Elle tournait légèrement la tête d'un côté et de l'autre, parcourant les appartements du regard avec une satisfaction teintée d'incrédulité, comme si elle redécouvrait un lieu dont elle avait été longtemps absente. Ses prunelles un peu vitreuses s'allumaient fugitivement lorsqu'elle s'attardait sur les lueurs du feu.
« Allons !» se décida-t-elle. « Aidez-moi !»
Croisant leurs bras dans son dos, le chevalier et la dame de compagnie la soulevèrent. Elle ne pesait presque rien. C'était à croire que sa parure sophistiquée habillait un symbole plutôt qu'une femme. Une fois debout, la duchesse chancela un instant, puis se redressa avec raideur. Un sourire de satisfaction se peignit sur ses lèvres blêmes.
« Enfin !» savoura-t-elle. Remise d'aplomb.
C'est merveilleux, Votre Altesse, s'inquiéta Almody. À présent, vous devriez vous recoucher.
Odéarde fit comme si elle n'avait rien entendu. Sa main glissa de l'épaule de sa suivante, sur laquelle elle s'était appuyée, et puis elle étira lentement son dos et son cou. Ses vertèbres craquèrent doucement sous la toilette, des reins jusqu'à la nuque. Et la duchesse parut grandir de façon sensible, au point d'égaler presque la taille du chevalier.